Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue à cette grande édition de midi au micro Lievin Bouinga. D'abord l'ossature de ce journal. Manifestation ce mercredi à Goma. Les familles des victimes du naufrage du 3 octobre dernier réclament les corps de leurs proches devant la morgue de l'hôpital général. Nous en parlons dans un instant. La situation dans l'est de la RDC reste alarmante. Propos de Wang Xia, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac, s'exprimait hier mardi lors d'un exposé au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous suivrez son intervention dans ce journal. Notre invité est Léon Chikuru Macheka, coordonnateur du programme de financement des catastrophes naturelles. Il va nous parler d'un plan de contingence présenté aux autorités pour faire face aux inondations. Encore une fois, bonjour. Les familles des victimes du naufrage du 3 octobre dernier réclament les corps de leurs proches à Goma. Ce matin, elles ont manifesté devant la morgue de l'hôpital général alors que les autorités s'attardent encore sur la question relative au lieu où sera érigé un cimetière commun à Minova. Des divergences persistent au sujet de l'enterrement qui était prévu pour ce mercredi matin. Sifa Maguru.
Les familles qui ont manifesté ce matin, paralysant la circulation routière sur la nationale numéro 2 au niveau de la morgue et de l'hôpital provincial, disent s'impatienter pour la sortie des corps de la morgue à Goma. La situation est identique à Minova, où les habitants attendent également que leurs proches soient inhumés en toute dignité, ajoute le président de la société civile de Bouzi. Néhémi Abadjoué, porte-parole des familles des victimes, revient ici sur la situation et lance un appel à l'apaisement aux familles des victimes.
On a trouvé que si on peut localiser un cimetière, heureusement que par les efforts du gouverneur, on en a eu hier soir. Et maintenant, il ne reste que les travaux de préparation des lieux où l'on va enterrer. Et pour nous, ça serait utile parce que si on enterrait premièrement ces corps et qu'on tire les bateaux des eaux, puis y ériger un mausolée mémorial.
Les autorités nationales et provinciales, y compris le gouverneur du Sud-Kivu, les chefs coutumiers, notamment les Mwami Sangara de Kalehe, mais aussi des notables Havu, Honde, Tembo et les représentants des familles, sont réunis en ce moment pour tenter de trouver une solution, affirment nos sources. Le maire de la ville de Goma, Faustin Kamande, qui appelle les familles des victimes au calme, parle d'une manipulation, mais que la situation est sous contrôle de la police. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Secteur de navigation encore avec ce constat amer dans la province du Maïndombé. Absence totale d'engins pour traquer les embarcations qui violent les règles établies comme la navigation nocturne et la surcharge. Les services concernés assistent impuissants à ces dérapages. Et une question, comment mettre fin aux naufrages à répétition? Le gouverneur Nkosso Kevani propose la tenue des états généraux de la navigation avec tous les services qui dépendent du gouvernement central. Il s'est ainsi exprimé après l'ouverture à Inongo d'une tripartite sur les causes des naufrages au Maïndombé. Le point avec Irène Mboma Luzolo.
Cette tripartite gouvernement, transporteur et armateur tenue à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé, fait un état des lieux malheureux du secteur de la navigation dans cette partie du pays qui enregistre plusieurs cas de naufrages sur les lacs, les fleuves Congo et les rivières. Le gouverneur de cette province, Lebon Nkosso Kevani, qui l'a fait savoir lors d'une interview, explique.
La plupart d'armateurs prennent des embarcations à location, donc ils ne sont pas propriétaires. La deuxième, c'est tous ces services-là, donc commençant par la division provinciale des transports, les commissariats fluviales, la police fluviale, la régie des voies fluviales, aucun service n'a une embarcation pour interpeller, par exemple, une embarcation qui essaye de prendre les larges.
L'autorité provinciale propose au gouvernement central d'organiser les états généraux de la navigation pour lever les options.
En tout cas, je propose qu'il y ait les états généraux de la navigation, et surtout ici chez nous dans les Maïndombé, mais c'est pratiquement chaque trimestre qu'il y a ces cas récurrents de naufrages. Il en est ainsi dans d'autres provinces.
Lors de cette tripartite, les participants ont recommandé au gouvernement provincial la dotation des embarcations sécurisées pour garantir de bonnes conditions à la population. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre actualité, situation dans l'est de la RDC avec cette position de Yuang Xia. La situation dans l'est, dans cette partie de la RDC, reste alarmante, a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs. C'était hier mardi lors d'un exposé au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, je le cite, c'est la population civile qui continue à payer le prix fort de la guerre au quotidien à travers des pertes humaines, violences sexuelles, problèmes de santé et malnutrition dans les camps de déplacés. Malgré cette situation, pour la première fois depuis la résurgence du groupe rebelle M23 en novembre 2021, Xia voit une véritable lueur d'espoir. Les autres aspects de son intervention avec vous, Blaise Makassi.
Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, la violence est alimentée à la fois par le groupe armé M23 qui continue d'étendre son territoire et par les forces démocratiques alliées dont les liens terroristes et les attaques contre les civils à Nitouri et au Nord Kivu menacent la région. La RDC est désormais le deuxième pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées après le Soudan, a-t-il révélé. Malgré cette situation, pour la première fois depuis la résurgence du groupe rebelle M23, Wang Xia voit une véritable lueur d'espoir à travers les récents pour parler de paix dans le cadre du processus de Luanda qui représente pour lui une étape importante vers le silence des armes et l'installation d'une paix durable. Bien que les mesures encourageantes aient été prises, il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin aux souffrances de la population congolaise et parvenir à une paix durable dans la région de Grand Lac, a rappelé Wang Xia. Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, est revenue sur trois obstacles qui freinent le processus de Luanda. De son côté, le Rwanda a tout rejeté en bloc.
Exemple de ces cas d'insécurité béni dans le Nord Kivu, une panique générale a gagné hier mardi le marché de Mabalako, situé à environ 40 km à l'ouest de Beni. En cause, un militaire des FARDC qui a tiré plusieurs coups de feu en l'air. La population terrifiée et pensant à une possible incursion des ADF s'est dispersée dans tous les sens. La société civile a demandé l'ouverture d'une enquête. Récit des faits avec Marc Marofimbo.
D'après le président de la société civile du groupement de Basso Madiwe, l'incident s'est produit sous une forte pluie aux alentours de 14h au centre commercial de Mabalako, un jour de marché. Les coups de feu ont résonné pendant plusieurs minutes, provoquant une vague de panique parmi les commerçants et les habitants venus de divers coins de la région. Craignant une attaque des ADF, ils ont pris la fuite dans la confusion. Quelques heures après l'incident, un groupe de jeunes a réussi à appréhender les militaires responsables des tirs. Ce dernier a été remis à la police de Mabalako. La société civile préoccupée par cette situation a réclamé que les militaires répondent de ces actes. Elle a également demandé aux services de sécurité de mener des enquêtes afin de retrouver certaines personnes portées disparues après la débandade, craignant que certaines aient pu se noyer dans la rivière Loulo qui borde le marché. Justin Paluku Kavalami, président de cette structure citoyenne, a également sollicité une enquête de la Fédération des entreprises du Congo FEC à Mabalako pour évaluer les pertes subies par les commerçants et demander des réparations. Pour rappel, la région de Mabalako fait face à des menaces sécuritaires depuis avril dernier après une série d'attaques menées par les ADF dans les localités voisines. Depuis lors, la population vit constamment dans la crainte. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis ces chiffres qui font mal, une trentaine de personnes tuées en l'espace d'un mois seulement par les rebelles des ADF en Ituri, c'est précisément dans la chefferie Babila Babimba en territoire de Mambasa. Ces chiffres ont été publiés hier mardi par les acteurs de la société civile locale ainsi que les défenseurs des droits de l'homme. Ils alertent les autorités sur l'occupation par ces rebelles de plusieurs entités à vocation agricole dans cette région. Le point avec Ezekiel Mousalia.
La situation sécuritaire reste volatile sur l'ensemble du groupement Bakaeku à 140 km de Mambasa Centre, en cause l'insécurité causée par l'activisme des rebelles des ADF dans la région. D'après des acteurs de la société civile locale, cette agglomération subit presque chaque jour des attaques répétées de ces mouvements rebelles et leurs supplétifs Mai Mai qui terrorisent la population, en majorité des agriculteurs. Le dernier cas est celui survenu du 4 au 5 octobre dans le village de Luhindi où ils ont commis plusieurs exactions contre les civils, dont l'incendie des maisons. Ils ont également été aperçus la veille dans les villages Makoko et Mikoli. John Vuleverio, un activiste des droits humains dans la région, avance un bilan de 32 personnes tuées depuis le 7 septembre et plus de 8000 personnes en déplacement. Ce bilan pourrait être revu à la hausse car plusieurs localités restent encore sous occupation de ces rebelles, précise-t-il. Des notables de cette entité demandent aux armées, FARDC et UPDF, d'intensifier les opérations dans cette région pour mettre hors d'état de nuire ces mouvements rebelles. Nous attendons encore la réaction de l'administrateur du territoire à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Le processus d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC se poursuit bel et bien dans la province de la Tchopo, deux mois après l'avènement d'une nouvelle équipe dirigeante à la coordination de Frivao. Environ 1000 victimes ont bénéficié de leur indemnisation. Alors que les bénéficiaires s'en réjouissent, le coordonnateur de cet établissement public rassure ceux qui ont été certifiés. D'ici deux semaines, Chansar Boloukola espère que tout le monde sera servi.
Ce sont exactement 988 personnes qui ont déjà perçu chacune son enveloppe. Mardi, beaucoup d'autres victimes éligibles ont pris d'assaut les guichets de la banque pour retirer leur argent. L'une d'elles se dit satisfaite en dépit du montant qu'il juge dérisoire au regard des biens qu'il a perdus.
On n'avait pas la conviction que non, un bon jour, on pouvait être remis dans nos droits. Mais aujourd'hui, nous sommes remis dans nos droits, bien que c'est un montant forfaitaire, mais nous sommes dans le sentiment de joie.
Chaque personne éligible touche une somme forfaitaire de 2000 dollars américains. Comment expliquer cela pour le coordonnateur intérimaire de Frivao? Cette disposition n'est que provisoire.
À l'issue des résolutions prises avec le député national, mais aussi provinciaux, on fixait ce montant de 2000 dollars en attendant bien sûr que l'identification au sein de la République tout entière, je vois la Grande Orientale de Mamré, arriver à sa fin. On pourrait alors catégoriser pour respecter l'esprit de l'arrêt.
Le coordonnateur intérimaire de Frivao rassure que les 3163 victimes certifiées seront toutes servies d'ici deux semaines. Après, interviendra l'examen des autres dossiers qui avaient été écartés pour diverses raisons. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Voilà, vous avez bel et bien reconnu la voix de Jacques Mkonkole. Justice avec l'affaire Patrick Lokala. Le journaliste a été auditionné pour la deuxième fois hier mardi au parquet de grande instance de la Gombe. Selon l'avocat du journaliste de Télé News RDC, son client est poursuivi pour deux dossiers de diffamation. Le premier l'oppose à un confrère journaliste et l'autre concerne les magistrats. Maître Nico Faye Mbikaï explique au micro de Grâce Hamzati.
Il avait subi de coups à la tête, de torture. Il a eu un enflement du côté œil droit. La première plainte est déposée par M. Christian Lusakweno et la deuxième Mano du corps de magistrat. Quant à la première plainte de Christian Lusakweno, il y a l'infraction de diffamation ou bien d'imputation dommageable. Et il faut aussi souligner que lors de son arrestation brutale à son domicile, la femme s'est rendue compte qu'il y avait des biens qui ont été volés, entre autres un porte-monnaie contenant des documents, carte bancaire. Quant à la deuxième plainte, on lui reproche d'avoir imputé au magistrat de faits qu'il estime n'être pas vrais. Notre client ne reconnaît pas tous les faits mis à sa charge. D'où pour nous, nous attendons que la partie qui a porté la plainte puisse prouver les allégations.
Contacté, le journaliste Christian Lusakweno de Top Congo reconnaît l'existence d'une plainte déposée depuis le mois de juillet par ses avocats. Au Sud Kivu, le ministère provincial de la Santé, à travers le programme élargi de vaccination, organise du 10 au 12 octobre la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les enfants de 0 à 5 ans sont la principale cible pour cette vaccination. C'est ce qu'a annoncé la division provinciale de la Santé ce 7 octobre lors d'un briefing tenu à la division provinciale de la Santé. Les professionnels de santé appellent les parents à collaborer pour la faisabilité de cette vaccination. Reportage Rachel Kiesembango.
Les 34 zones de santé du Sud Kivu sont concernées par la vaccination contre la poliomyélite qui vise à atteindre 1 600 000 enfants durant ces 3 jours. La stratégie utilisée par les vaccinateurs reste le porte-à-porte. C'est ce qu'affirme le docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la DPS Sud Kivu.
Donc ce sont des vaccinateurs qui vont passer de ménage à ménage pour essayer de vacciner tous les enfants. Et au total, nous avons autour de 1 800 000 enfants de 0 à 5 ans que nous devons atteindre pendant les 3 jours. Nous demandons à tous les parents de s'irradier pour faire vacciner tous ces enfants. Nous avons toujours annoncé que la polio reste un problème de santé publique parce que même l'année passée, notre province a eu des cas de polio où les enfants sont devenus infirmes. Le seul moyen d'aider ces enfants à éviter la polio, c'est la vaccination. Parce qu'il n'y a pas de médicaments contre la polio. Si un enfant est atteint de la polio, c'est fini. Il reste infirme toute sa vie. Avec deux gouttes qu'on donne à cet enfant, ça peut l'aider.
Signalons que c'est la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite qui sera organisée en 2024 en RDC. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un pas de plus vers les élections municipales à Madagascar, c'est hier mardi tard dans la soirée que la CENI a finalement publié sur son site web la liste officielle de tous les candidats retenus pour participer au scrutin du 11 décembre prochain. Désormais, plus aucun recours n'est possible. La population aura quelques semaines pour se familiariser avec les différents prétendants au poste de maire et de conseiller communaux avant d'aller aux urnes.
L'invité.
Notre invité est Léon Chikuru Macheka, coordonnateur du programme de financement des catastrophes naturelles. Il nous parle d'un plan de contingence présenté aux autorités et aux communautés du territoire d'Isangi. Objectif, faire face aux inondations qui frappent régulièrement cette entité. Léon Chikuru Macheka s'entretient ici avec Jacques Mokonkole.
Léon Chikuru, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'un plan de contingence dans le territoire d'Isangi?
Ce qui a motivé l'initiative, c'est que depuis un certain temps, on a des inondations récurrentes ici à Isangi. Et pour mettre fin, pas pour mettre fin, mais pour aider les populations à résister ou à faire face à ces inondations-là, il fallait que nous ayons un plan de contingence qui sera un outil qui va guider toutes les parties prenantes.
En initiant ce plan, quel est l'objectif poursuivi?
L'objectif, c'est que nous voulons... que la population d'Isangi soit au courant, prenne conscience de la situation dans laquelle elle vit et qu'elle prenne aussi des actions qui peuvent l'aider à surmonter les difficultés rencontrées pendant les différentes inondations.
Un adage dit « tout ce qui s'est fait pour moi, sans moi et contre moi ». Avez-vous impliqué les communautés locales dans l'élaboration de ce plan?
Oui, nous avons d'abord travaillé avec les communautés pour, dans le cadre de... dans les différents villages dans le cadre des évaluations participatives de vulnérabilité. Ce travail a abouti à faire le plan communautaire de préparation de réponse aux urgences et c'est le condensé de ce plan de communautaire de préparation de réponse que nous avons pu élaborer maintenant le plan de contingence. Et donc ça veut dire que toutes les couches de la population d'Isangi ont été considérées pendant ce travail.
Léon Chikuru, quelles sont les actions que vous avez envisagées dans ce plan?
Dans ce plan, nous avons plusieurs actions. Nous avons des actions de préparation, nous avons des actions d'anticipation, nous avons des actions de réduction des risques, nous avons aussi des actions de réponse et de relèvement communautaire.
Concrètement, qu'est-ce qui se fera?
Concrètement, les populations doivent avoir des actions communautaires, par exemple, pour dégager les caniveaux, par exemple, pour reconstruire leur maison, les actions de plaidoyer pour une délocalisation ou pour que l'on puisse tirer les fleuves à ce niveau. Et donc, il y a beaucoup d'actions vraiment qui sont incluses dans ces plans et qui peuvent, une trentaine d'actions, quoi, qui sont dans ces plans-là et qui doivent normalement être réalisées avant, dans le cadre d'anticipation, avant les inondations prochaines.
Avez-vous des ressources pour sa mise en œuvre et à quand exactement?
Bon, on ne sait pas le début de sa mise en œuvre puisque normalement la mise en œuvre doit intervenir avant quand il y aura activation.
Activation, que voulez-vous dire par là, monsieur Léon Chikuru?
L'activation, c'est-à-dire actuellement nous utilisons un modèle qu'on appelle le modèle JBA qui nous permet de prédire les inondations, donc ça nous permet avec un seuil bien fixe de dire que non, il y aura une pluie qui peut atteindre autant de ménages qui peut faire monter le niveau d'eau de tel mètre de hauteur Et donc c'est à ce niveau-là, lorsque ce modèle-là va s'activer à Isangi, que l'on pourra mettre ces actions en œuvre. Donc ce sont des actions qui se font normalement 10 jours avant les inondations, puisque ce sont des actions d'anticipation et de réduction des risques liés aux catastrophes.
Léon Chikourou, cela est-il possible que ce soit réalisé avant la fin de cette année en cours?
Oui, il est possible que ça soit fait au courant de cette année ou l'année prochaine, suivant que le modèle va s'activer à Isangi ou à Kinshasa ou à Kindu, puisque nous travaillons déjà sur les trois sites et le modèle ne s'activera malheureusement que sur un site de ces trois.
Léon Chukuru Macheka, merci.
Merci beaucoup, merci les journalistes.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à Martha Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Pierre Diassinois.